Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seroudia, bonjour. Au Mali, le chef de la junte au pouvoir, le colonel Assimi Goïta, a enjoint mardi la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest de lever ses sanctions et il a réitéré son soutien à la présence des forces françaises et de l'ONU face aux djihadistes. La veille, un officier à la retraite, Bandao, a été choisi pour diriger la transition et nommer un premier ministre, tandis que le médiateur de la CDAO, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, est attendu ce mercredi au Mali. En Côte d'Ivoire, l'ancien premier ministre Pascal Affingessan, candidat à la présidentielle du 31 octobre, a affirmé souscrire à l'appel à la désobéissance civile lancé dimanche par un autre candidat et opposant, l'ex-président Henri Konan-Bédié. C'était après que le Conseil constitutionnel a validé la candidature en troisième mandat controversé du président Alassane Ouattara. Le porte-parole du RHDP au pouvoir a lui exprimé, je cite, sa vive indignation face aux dérives de l'opposition, condamnant, citation encore, les propos irresponsables et les discours incendiaires de M. Bédié. En Gambie, l'Assemblée nationale a rejeté mardi un projet de nouvelle constitution qui empêcherait le président Adama Barrow de briguer un troisième mandat en cas de réélection, des députés de son camp ayant voté contre. Carlos Manuel de São Vicente, un homme d'affaires marié à une fille de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos, est accusé de corruption. Il a été arrêté mardi après un long interrogatoire, et ce dans le cadre d'une campagne anticorruption menée par le président João Lourenço, qui vise principalement la famille de son prédécesseur. M. de São Vicente a nié les accusations portées contre lui. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, lors d'un discours vidéo pré-enregistré, a réclamé mardi devant l'Assemblée générale annuelle de l'ONU une annulation totale de la dette pour les pays en développement afin de les aider à surmonter la pandémie de coronavirus et leur permettre de mieux se reconstruire. Les États-Unis et la Chine se sont durement affrontés mardi à l'Assemblée générale de l'ONU. Les Nations unies doivent tenir la Chine pour responsable de ses actes au début du COVID-19, a lancé le président américain Donald Trump dans une vidéo enregistrée. Il a accusé la Chine d'avoir laissé le virus chinois, une formule qui suscite l'ire de Pékin, infecter le monde. Dans un discours également pré-enregistré, son homologue chinois Xi Jinping a déclaré que la Chine n'avait pas l'intention d'entrer dans une guerre froide, mettant en garde contre ce qu'il a appelé le piège d'un choc des civilisations. Les États-Unis ont franchi mardi la barre des 200 000 morts pour 6,9 millions de cas de COVID-19. Pendant ce temps, au Royaume-Uni, face à la résurgence du coronavirus, le Premier ministre Boris Johnson en a appelé à l'esprit d'équipe et à la discipline de ses concitoyens pour respecter de nouvelles mesures imposées mardi sous peine de devoir aller plus loin dans les restrictions. A signalé aussi résultats cliniques positifs pour les médicaments Avigan du groupe Fujifilm Nippon. La station spatiale internationale a dû manœuvrer mardi pour éviter une possible collision avec un débris d'une ancienne fusée japonaise, la troisième manœuvre d'évitement cette année, selon la NASA. Elle a réclamé plus de moyens pour surveiller le nombre croissant d'objets en orbite terrestre. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, en votre compagnie Idrissa Seroudia, restez à l'écoute pour la suite de nos informations. Voilà, suite de nos informations. Au Niger, l'opposant Ama Amadou, investi par son parti pour la prochaine élection présidentielle, appelle à un soulèvement populaire à la malienne si sa candidature est rejetée par la Cour constitutionnelle. Sa condamnation à 1 an de prison dans l'affaire de trafic de bébés l'empêche d'être inscrit sur la liste électorale selon le code électoral, nous dit notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
C'est au lendemain du congrès de son parti qu'il a investi comme candidat à la présidentielle du 27 décembre prochain que l'opposant Ama Amadou a fait cette déclaration face à la presse.
Il faut faire attention au ciel trop calme. D'un coup, la tornade peut surgir. Si le peuple veut, les décisions mal prises par la Cour constitutionnelle seront annulées. Donc c'est au peuple que je fais appel. Ce n'est pas simplement de la désobéissance civile, c'est de l'action civile. Je parle de l'action que le M5 FRP a créée au Niger. Au Mali, pardon. Tellement je pense qu'on pourrait le faire au Niger.
Contacté par VOA Afrique, un cadre du parti au pouvoir déclare que le PNDS Tareya ne se sent pas concerné par un défi lancé à la justice. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au Cameroun, la police a rapidement dispersé mardi des centaines de manifestants à Douala, la capitale économique. Ils avaient répondu à l'appel de l'opposition qui a très peu mobilisé face à un impressionnant dispositif de sécurité. Le point avec Nani Talani.
Sept partis, dont celui de Maurice Kamto, principal opposant, avaient appelé à des marches pacifiques contre le régime de Paul Biya, 87 ans, qui dirige le pays d'une main de fer depuis près de 38 ans. Ces appels n'ont pas mobilisé à Douala et encore moins à Yaoundé, face à un déploiement massif de policiers et militaires dans ces deux villes. À Douala, la capitale économique, moins de 500 manifestants ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau dans un quartier populaire. Dans le reste de la ville, les marchés et boutiques sont restés ouverts et les populations ont vaqué normalement à leurs occupations. Yaoundé aussi était quadrillé par des forces de l'ordre qui ont interpellé ça et là des dizaines de personnes. Mi-septembre, le gouvernement avait interdit toute manifestation, assimilant le mot d'ordre de l'opposition à un appel à l'insurrection et menacé de réprimer tout rassemblement. Les autorités avaient également invoqué les règles de distanciation liées au coronavirus.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump présentera dès samedi une candidate pour succéder à la progressiste Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême, malgré l'indignation des démocrates. Le point avec Abdourahman Dia.
J'annoncerai ma candidate pour la Cour suprême samedi à la Maison-Blanche. L'heure exacte reste à déterminer, a tweeté Donald Trump mardi matin. Parmi les favorites figurent Amy Coney Barrett, 48 ans, ainsi qu'une magistrate d'origine cubaine, Barbara Lagoa, 52 ans, née en Floride de parents ayant fui le régime communiste de Fidel Castro. Un atout potentiel pour le président Trump, puisque cet État devrait jouer un rôle décisif dans la présidentielle. Fort d'une majorité au Sénat qui doit voter sur le choix du président, ce dernier a écarté toute possibilité d'attendre l'issue des élections du 3 novembre. Par contre, les démocrates sont vent debout, arguant qu'il faudrait attendre l'issue de ce scrutin. Ils accusent les républicains de revenir sur leur parole lorsqu'ils avaient refusé de considérer le candidat choisi par l'ancien président Barack Obama en 2016, au motif qu'il s'agissait d'une année électorale. Si le Sénat, à majorité républicaine, confirme sa candidate, le président aura placé 3 juges conservateurs nommés à vie au temple du droit américain.
Le Cameroun est devenu l'un des 4 fournisseurs africains de gaz naturel à la Turquie grâce au ILI Epiceo, l'unité flottante de liquéfaction du gaz naturel mise en service dans la ville de Kribi en 2018. Selon la Société nationale des hydrocarbures, l'État camerounais a exporté 157 924,66 tonnes de gaz naturel liquéfié fin mai 2020. À en croire Investir au Cameroun, ce gaz a été livré en Turquie, en Inde, en Corée du Sud, au Koweït et à la filiale singapourienne du groupe russe Gazprom. Le Maroc s'attend à une hausse de 10% des exportations des agrumes en 2020-2021 à cause d'une offre plus faible de certains concurrents et une demande plus soutenue sur les marchés internationaux. L'agroalimentaire est l'un des secteurs les plus dynamiques de l'économie marocaine. Les recettes d'exportation sont passées de 1,9 milliard de dollars en 2010 à près de 4,3 milliards de dollars en 2019. Le Maroc est l'un des principaux exportateurs africains de produits agroalimentaires. Pour terminer, les cours du pétrole ont baissé hier devant le retour sur le marché des exportations libyennes. Le baril américain de West Texas Intermediate pour octobre a perdu 5,45% par rapport à vendredi. Celui de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre a baissé à Londres de 4,50%.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. La République démocratique du Congo a publié une liste de 28 joueurs sélectionnés pour son stage prévu le mois prochain à Rabat au Maroc. Cet exercice sera ponctué de deux matchs amicaux contre le Burkina Faso le 9 octobre et le Maroc le 13. Le sélectionneur des Léopards, Christian Zengi Diembe, a décidé de faire sans deux de ses attaquants, Cédric Bakambu du Beijing Gouin et Jackson Muleika, qui a nouvellement quitté le tout-puissant Mazembe pour le Standard de Liège. Difficile pour Bakambu de quitter la Chine avec les contraintes liées au coronavirus. Muleika, lui, vient de rejoindre le Standard de Liège où il a récemment signé. Les Super Eagles du Nigeria, eux, feront leur stage en Autriche avec deux matchs amicaux en vue contre la Côte d'Ivoire le 9 octobre et la Tunisie le 13. Le sélectionneur Guénot Traoré a retenu une liste de 25 joueurs. Deux jeunes marquent cette liste, Zaidou Sanoussi, latéral gauche de 23 ans, recruté par le FC Porto, et Chidera Idjouké, ailier de 22 ans, auteur de 9 buts la saison dernière et qui rejoint le CSKA Moscou. Les têtes d'affiche comme Victor Osimhen, Samuel Chukwueze, Alex Iwobi, Moses Simon sont présentes. Transfert, Edouard Mendy devrait prochainement compléter son transfert à Chelsea, où les performances du gardien titulaire Kepa inquiètent. Le transfert de l'international sénégalais devrait coûter aux Blues 26 millions d'euros. L'arrivée de Mendy, actuel gardien de Rennes, devrait créer un peu de concurrence avec l'espagnol Kepa Arrizabalaga, gardien titulaire recruté pour 80 millions d'euros, mais auteur de performances médiocres dont une bourde dimanche lors de la défaite de 0 face à Liverpool. Le coach Frank Lampard espère que Mendy pourra échapper à une quarantaine à son arrivée en Angleterre et qu'il sera disponible dès samedi face à West Bromwich. Le parquet suisse a requis 28 mois de prison contre le président de Bein Media et du PSG, Nasser Al-Khelaifi, et 3 ans contre l'ancien numéro 2 de la FIFA, Jérôme Valk, dans un procès de droit télévisé. Le parquet reproche à Jérôme Valk d'avoir sollicité à l'été 2003 l'aide de Nasser Al-Khelaifi pour acheter une luxueuse villa à Sardaigne au moment où Bein négociait la prolongation de ses droits médias en Afrique du Nord et au Moyen-Orient pour les mondiaux 2026-2030. Personnalité phare du football a rappelé le parquet. M. Khelaifi a acquis la demeure pour 5 millions d'euros via une société transférée presque aussitôt au frère d'un de ses proches collaborateurs avant de la mettre à disposition de M. Valk. Les deux hommes ont évoqué un arrangement privé sans lien avec le contrat conclu par Bein avec la FIFA en avril 2014.
Avec vous, je vous donne rendez-vous dans À votre avis, votre émission débat à 18h05, temps universel sur VOA Afrique, pour évoquer la situation au Mali. Pensez-vous que la CDAO a bien traité le coup d'État au Mali? Pouvoir civil ou militaire? Quel avenir pour le Mali qui fête son indépendance aujourd'hui, 22 septembre? Vous souhaitez participer? Laissez-nous vos réactions, vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique et nous vous rappellerons. Les débats sur VOA Afrique, c'est tous les jours dans À votre avis à 18h05, temps universel.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Afrique. En votre compagnie, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, le choix de Bangaou pour diriger la transition est bien accueilli par certains Maliens, mais le M5-RFP conteste la manière dont il a été désigné, arguant que les militaires l'ont imposé sans débat au niveau du collège de désignation. Le CNSP tente de convaincre le M5 sur le choix de Bangaou, qui sera investi vendredi devant la communauté internationale, nous dit Kassim Traoré.
Après la désignation du président et du vice-président de la transition, c'est le président du Comité national pour le salut du peuple qui a fait l'annonce sur la télévision nationale, colonel Assimi Goïta.
C'est dans ce cadre qu'un collège a été mis en place. Le dit collège est composé de 7 membres du CNSP, 2 représentants du M5-RFP, 1 représentant du Conseil national de la société civile, 1 représentant du Conseil national des jeunes, 1 représentant des associations et organisations féminines, 1 représentant de la Fédération des personnes handicapées, 1 représentant des organisations syndicales, un représentant des mouvements signataires, un représentant des légitimités traditionnelles et un représentant des Maliens de l'extérieur. À l'issue de cette assise de ce lundi 21 septembre 2020, le collège a désigné des personnalités ci-après. Président de la transition au Mali, M. Bangaou. Vice-président de la transition, colonel Assimi Goïta.
Contrairement à cette annonce faite par le colonel Assimi Goïta, le M5-RFP dit que ces deux représentants n'ont pas participé aux travaux du collège. Shogel Kokala Maïga, membre du M5-RFP.
Que notre autorité morale, Mahmoud Dikou, a été invité par le CNSP comme personne ressource au collège. Il nous a dit qu'à son arrivée, il a constaté qu'au lieu d'un collège qui délibérait, c'est un communiqué que le président du CNSP est venu lire. Il n'y a eu aucun débat, il n'y a eu aucun document, il n'y a eu aucun échange. Et il a dit, séance tenante, que ce qui vient d'être lu le surprend parce que le M5-RFP n'est pas là. Le représentant de la société civile a dit la même chose, qu'il s'étonne de l'absence du M5-RFP, alors que dans le communiqué qui vient d'être lu par le CNSP, on annonçait la présence du M5-RFP, des délégués. C'est donc pas vrai. Il leur a dit que la décision qu'ils ont prise relève de leur seule responsabilité face au peuple malien et face à l'histoire.
Beaucoup d'observateurs estiment que les militaires veulent garder le pouvoir.
Le pouvoir reste indirectement entre les mains de l'armée parce que Bangaou est quand un tampon entre l'armée. Et il n'a que des sous-officiers, des officiers qui ne peuvent jurer que par lui. Il a été ministre de la Défense, il a été, comme vous l'aviez signalé dans vos différents trucs, il a abrégé beaucoup de responsabilités dans l'armée, ce qui fait qu'il n'est pas, il a toujours des entrées dans l'armée, donc c'est toujours l'armée qui est au pouvoir.
Dans la ville de Bamako, la nomination de Bangaou est bien appréciée.
La nomination du nouveau président, Bangaou, vraiment c'est un bon président pour moi. Parce qu'il a fait beaucoup de choses au Mali. Donc il faut un militaire qui peut diriger ces pays-là.
On entend de lui, on veut que le Mali soit un bon pays. Là, un pays où les Maliens vont dire Alhamdoulilah.
Les Maliens attendent de lui la bonne transition. Il a la qualité.
J'ai entendu qu'il est bien, vraiment. Je suis content que ça soit un militaire. Avec la crise, on va se débrouiller avec ça.
L'investiture du président de la transition est prévue ce vendredi à Bamako avec la présence de la communauté internationale sous la houlette de la CDAO. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
En République centrafricaine, alors que le code sur la modification du code électoral est attendu ce mercredi à l'Assemblée nationale, la tension monte au sein de la classe politique. L'opposition dénonce les manœuvres du pouvoir visant, selon elle, à organiser des élections mal préparées. Au cours d'un point de presse mardi après-midi, elle a démenti avoir demandé le report du scrutin en vue d'une transition politique ou de l'obtention de postes au gouvernement. Freeman Sipila.
L'enjeu du vote de ce mercredi à l'Assemblée nationale est de taille. Le gouvernement demande aux députés de modifier 13 articles du code électoral pour permettre à l'ANE, Autorité nationale des élections, de faire un aménagement technique du chronogramme des opérations de recensement des électeurs et de la convocation du corps électoral. Ce report technique n'impacterait pas la date du scrutin prévu le 27 décembre 2020, selon l'ANE. L'opposition de son côté est vent debout contre ce projet qui, selon elle, vise à organiser des élections mal préparées et a écarté certains candidats à la présidentielle, l'ancien président François Bozizé.
En ce qui me concerne, rien ne m'empêche d'être candidat. Et c'est la raison pour laquelle on est en train de monter toutes sortes de scénarios pour pouvoir m'éliminer. Pourquoi ? Vous vous rendez compte ? Ancien chef de l'État, je deviens persona non grata chez moi. J'ai été chef de l'État, j'ai été élu à deux reprises. Je connais comment les choses se font.
Et notre ancien chef d'État de la transition, Ferdinand Alexandre Nguindi, dément les propos du pouvoir, arguant que l'opposition ne veut pas des élections le 27 décembre 2020 en vue d'imposer une transition politique à la fin du mandat du président en exercice.
La Côte d'Ivoire ne cherche pas une transition, ne demande pas une transition. Même s'il y a glissement, la Côte d'Ivoire ne remettra pas en cause les institutions de la République. Mais nous voulons qu'il y ait des élections apaisées, et que les résultats soient acceptés par tout le monde. Nous voulons la transparence. La Côte d'Ivoire est en quête de la transparence. C'est ce que nous cherchons.
Tout se joue ce mercredi au Palais du Peuple. Un vote déjà sous tension car l'Assemblée nationale est quadrillée depuis mardi matin par les forces de sécurité. Le président du Parlement, El Hadj Laurent Gonbaba, rappelle aux députés la portée de leur décision attendue.
Nous sommes censurés qu'un processus électoral se déroule dans le respect scrupuleux des dispositions du Code électoral. Nous savons tous que les opérations d'inscription sur la liste électorale demeurent inachevées dans 3 préfectures pour des raisons de sécurité, mais également à l'étranger. Nous sommes à la veille des élections présidentielles et législatives capitales. L'avenir politique de notre pays se joue aujourd'hui et maintenant. Nous avons l'obligation, en tant que représentants du peuple, d'apporter notre contribution pleine et entière dans la recherche de solutions fiables et surtout acceptable pour l'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles. Nous devons produire un travail exemplaire dans l'intérêt du peuple que nous représentons.
À la veille de ce vote, certains députés de la majorité présidentielle ont affirmé avoir fait l'objet de plusieurs formes de menaces, dont certains via des SMS. Fumansi Pila Bongui pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui sur le 101.7 FM.
Au Bénin, le problème de l'énergie électrique semble résister à tous les gouvernements qui passent. Depuis le mois de juin, les coupures intempestives ont repris de plus belle et de façon sauvage à certains endroits. Les autorités pointent du doigt des dysfonctionnements légers au grand mécontentement des populations qui subissent l'étendue des dégâts découlant d'une telle situation, nous dit de Cotonou notre correspondante Ginette Fleur à Dandé.
Après plusieurs mois d'accalmie, c'est reparti pour des heures de coupure chaque jour. La question de l'énergie électrique est un facteur clé du mandat de Patrice Talon. Il avait promis lors des campagnes électorales de 2016 que lui, président de la République, viendrait à bout de ce problème que traîne le Bénin depuis les années 90. Septima Inan est patron d'une imprimerie.
Ça nous crée énormément de problèmes et ça nous crée des manques à gagner d'ailleurs et parce que nous, depuis le matin, on attend le courant et on n'a pas le courant pour fonctionner. Donc les clients nous attendent aussi. Vous voyez, il y a des marchés qui sont là, mais on n'a pas le courant pour pouvoir travailler. Alors quand on met le groupe, ça n'arrive pas à assurer à tous nos besoins. Donc on attend pour le courant. Donc on a vraiment des difficultés pour fonctionner.
Le Bénin, pour se mettre à l'abri des coupures intempestives, du délestage sauvage, a besoin de 240 MW. Selon les autorités, les efforts sont en train d'être fournis pour que cet objectif soit atteint. Dans un récent point fait par le ministre de l'Énergie, Jean-Claude Oussou, il a dit que le Bénin se rapproche de cette capacité. Ousmane Seydou est un coiffeur. Il y a longtemps qu'il a laissé la bonne vieille méthode du pain et de la lame de rasoir pour la tondeuse électrique. Aujourd'hui, avec les coupures, il se pose 1000 questions.
Je pense que c'est un véritable
enfer. On n'a pas l'énergie, on ne travaille pas, mais voilà, les factures de la SPE chaque fois là, sont gonflées. Hein, les factures sont gonflées et c'est ce que nous vivons. Sérieusement, on est cassé. Sérieusement, on est cassé. Nous coiffons des DG, hein, des personnalités politiques. Quand on échange avec eux, le seul mot, c'est que ça va s'arranger. Ça va s'arranger, mais jusqu'à quand?
À en croire le ministre de l'Énergie, le Bénin dispose aujourd'hui d'une capacité de 120 MW sur les 240 attendus. On est encore loin de l'autonomie énergétique, mais pour les 4 ans de sa venue à la tête du pays, diverses communications ont été menées sur les efforts que fournit Patrice Talon pour l'extension du réseau électrique. Le citoyen lambda entend vaquer à ses occupations sans crainte d'être privé du courant. Assis au portail, en attendant le retour de l'énergie, ses deux parents laissent parler leur colère.
Ce soir, on a besoin du vent et puis on a besoin aussi de regarder la télé. Les enfants aussi ont besoin d'étudier avec l'électricité. Voilà, donc c'est amer, vraiment.
Vraiment, ça n'encourage pas. Après c'est de l'étage, maintenant, c'est des factures et avec des sommes exorbitantes qui vont commencer par apporter dans nos maisons.
Le Bénin a souvent connu des errements en matière d'énergie électrique et malgré les difficultés actuelles, le gouvernement est convaincu que ce problème sera complètement réglé en 2021. Pour le moment, les vendeurs de panneaux solaires photovoltaïques se font de bonnes affaires auprès de ceux qui préfèrent recourir à d'autres moyens en attendant 2021. De Cotonou, Ginette Fleur Adonné pour VOA Afrique.
En direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Au Congo-Brazzaville, les populations appellent les autorités à alléger, sinon à supprimer le couvre-feu de 20h à 5h du matin, instauré depuis 6 mois dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19. Pour les populations, cette mesure les empêche de bien exercer leurs activités quotidiennes, dans l'informel notamment. Des détails avec Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Dans les quartiers de Brazzaville et de Pointe-Noire, les populations demandent simplement la levée de cette mesure. L'activiste citoyen Charlène Kinoani arbore tout un t-shirt pour dénoncer la pratique du couvre-feu dès 20h.
Là, j'ai lancé une action citoyenne qui s'appelle Image Expressive. Elle vise principalement la levée du couvre-feu. Le couvre-feu constitue un poison pour les libertés individuelles et collectives, mais aussi pour les entrepreneurs et leurs activités.
Pour l'universitaire et acteur politique Vivien Manangou, le couvre-feu n'a plus sa raison d'être.
Vous voyez déjà que lorsque vous allez dans les rues, les populations n'en peuvent plus. Donc aujourd'hui, le couvre-feu à 20h à Brazzaville et à Pointe-Noire ne se justifie plus, ni sur le plan économique, ni sur le plan scientifique, ni sur le plan social.
D'autres citoyens se plaignent du poids du couvre-feu dans la réalisation de leurs occupations quotidiennes.
Je suis arrivé à un poste de gendarmerie, ils nous ont récupéré, nous étions autour de 20, donc il fallait rester là. On nous proposait de se soit retourner d'où je venais, mais à ce moment-là c'était impossible, je ne pouvais plus repartir parce qu'il était déjà 20h, ou il fallait attendre jusqu'à ce que la BG arrive pour nous embarquer tous. Donc nous étions tous là, on traînait, donc il y avait des mamans qui commençaient à pleurer parce qu'elles avaient des marchés, il fallait vite rentrer pour aller préparer pour les enfants.
Le déplacement devient difficile, vous n'avez plus de déplacement si vous n'avez pas prévu un petit 1500 ou 2000 francs pour le taxi. Parce que le bus, il n'y a plus de bus. Et donc vous êtes parfois obligé de marcher. Vous allez marcher pendant 2 heures du temps, 3 heures du temps si vous habitez de l'autre côté du Sala. C'est pas de 14 machins de Sala et tout. C'est très difficile. 22 heures, ça peut marcher, ça peut arranger certains, mais 20 heures, franchement.
Le Congo est sous état d'urgence sanitaire, renforcé par un couvre-feu depuis le mois d'avril dernier. À Brazzaville et à Pointe-Noire, le couvre-feu commence dès 20h, donnant l'aspect des villes fantômes. Des ONG locales dénoncent l'atteinte des libertés fondamentales. Joe Washington et Bina, défenseurs des droits de l'homme.
Les marchés de Fontitier à Pointe-Noire, les marchés de Brazzaville tels que Dragage, Takewa, Abakongo, Tangoma, ce sont des marchés où beaucoup de familles survivent par rapport à cela. Mais cette activité est bloquée. Donc nous considérons que le couvre-feu n'est plus adapté par rapport à nos situations. Parce que les populations aujourd'hui ne peuvent plus survivre par rapport à un couvre-feu qui les asphyxie. Et sans compter cette panique. Regardez, dès qu'il est 19h, tout le monde court pour rentrer chez soi. Mais
pour le moment, aucune réaction des autorités. Dans moins d'une semaine, la Coordination nationale de la gestion de la pandémie à Covid-19 devrait se réunir et une réponse pourrait être apportée aux nombreuses et insistantes plaintes des Congolais. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Seboudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.